Voilà, on va redémarrer pour pas perdre de temps et puis finir bien dans les délais annoncés. Alors, comment intégrer l'animal dans la ville durable et intelligente de demain? Ça sera la grande question à laquelle vous allez être chargé de répondre donc dans cette dernière conférence. Pour répondre à cette question, vous allez être deux. Donc, il y aura dans un deuxième temps Madame Jocelyne Porcher, qui est directrice de recherche à l'INRA à Montpellier, qui est spécialiste des relations de travail entre l'humain et l'animal. Donc, ça sera la deuxième partie. Mais on va commencer avec vous, donc Alexandre Lefebvre, qui nous vient de, vous nous venez de Belgique. Donc, ce ne sont plus les rencontres nationales hein, de l'éco-pâturage, mais là, tout de suite, voilà, on prend une dimension internationale grâce à vous. Donc, merci. Vous êtes à la fois chercheur et entrepreneur, ou plus exactement, vous avez été d'abord chercheur en agriculture urbaine à l'université de Liège, en Belgique, et aujourd'hui vous êtes donc conseiller en agriculture urbaine. C'est bien ça, je crois, l'agriculture d'une manière générale, à la fois l'élevage et puis aussi le maraîchage.
C'est ça.
Voilà, donc on vous laisse la parole pour répondre à cette belle question, comment intégrer l'animal dans la ville durable et intelligente de demain?
Donc voilà, je vais essayer de répondre à cette question sans m'éloigner trop de l'éco-pâturage, mais vous allez voir qu'on va quand même fort s'éloigner parce que je vais parler du contexte global, des animaux en général, pas seulement les animaux liés à l'élevage. Et c'est parti. Donc je vais me présenter d'abord. Donc mon entreprise s'appelle Green Surf. Je vais après vous présenter le contexte global, comme je vous ai dit, l'agriculture urbaine en général, qu'est-ce que c'est la ville intelligente dont on parle tout le temps, et enfin me concentrer plus sur l'animal en ville, les problématiques, les solutions et aussi les avantages, avec quelques exemples pratiques que je connais de Belgique. Alors voici un peu ce que je fais dans la vie en général. Donc j'ai commencé mon travail d'agriculture urbaine dans des associations et puis je suis devenu chercheur et la faculté s'appelle Jean Blou Agrobiotech et est rattachée à l'université de Liège. Par rapport à l'animal, dans mon laboratoire, on fait surtout le poisson, donc pas vraiment l'éco-pâturage. Mais j'ai eu des rencontres avec les personnes qui organisent l'événement et on voit qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont similaires. Donc au final, mes recherches ont donné naissance à une entreprise parce qu'on était très sollicité par des architectes, par des municipalités qui voulaient intégrer l'agriculture de façon générale, que ce soit les animaux ou les plantes, dans leur projet d'urbanisation ou dans leur stratégie de ville. Et tellement de sollicitations que on a décidé de créer une entreprise. Une entreprise se base sur du conseil. Donc ça s'appelle Green Surf pour Green Solution for Urban and Rural Farming. Parce que notre objectif, c'est pas de ramener la campagne au milieu de la ville. C'est bien de faire quelque chose de complémentaire. On est bien conscient que la ville va pas s'autonourrir à 100% dès demain. Mais il y a vraiment des complémentarités à faire, et autant du niveau de la campagne que du niveau de la ville. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on développe aussi des produits, des bacs potagers spéciaux pour les toits et des choses pour produire à l'intérieur, comme vous voyez là, l'étagère hydroponique. Le contexte global maintenant. Donc là, c'est pas très réjouissant. Je vais un peu casser l'ambiance. Donc, pourquoi remettre l'agriculture dans les villes? Une des raisons, c'est le fait que les terres arables sont de moins en moins disponibles et sont de plus en plus, les surfaces sont de plus en plus petites. C'est d'une part lié à la désertification dans certains endroits du monde, mais aussi surtout lié à l'urbanisation croissante. Alors, je vais partir vraiment dans les choses encore plus générales. Il y a plus de 40 ans, dans les années 70, les chercheurs s'étaient rassemblés pour savoir un peu quelles étaient les limites de cette croissance. Ici, on voit des courbes des ressources qui diminuent, de la nourriture qui est de plus en qui est de la demande en nourriture est de plus en plus importante parce que la population mondiale n'arrête pas de croître. Comme on voit ici, en 2050, on serait plus de 9 milliards et plus de 75% habiteraient dans les villes. Du coup, les productions de services, la population, la production industrielle, la pollution, tout ça augmente. Et tout ça a été déjà étudié à l'époque, donc il y a 40 ans. Et ils ont les petites courbes que vous voyez en pointillés, c'est les prédictions qu'ils avaient faites. Tous ces scientifiques s'étaient rassemblés pour savoir vers où on va. Et très récemment, en 2010, un chercheur qui s'appelle Pablo Servigne a essayer de voir avec les chiffres qu'on a maintenant, est-ce qu'on suit cette courbe ou pas? Et ce que vous voyez qui n'est pas en pointillé, c'est les courbes réelles. Donc on voit que à quelques degrés d'imprécision près, on suit vraiment la courbe. Le problème n'est pas encore là, le problème arrive ici. C'est que dans le futur, ces courbes, elles s'effondrent, notamment de la production, de la population, de la disponibilité des ressources, etc. Parce que les ressources de la planète ne sont pas infinies, et une des ressources, c'est les terres arables. Où je veux en venir avec tout ça, c'est que je vais vous expliquer un peu l'agriculture urbaine, la ville intelligente, et pourquoi l'agriculture urbaine peut en partie répondre à ces problématiques. Donc, qu'est-ce que l'agriculture urbaine ? C'est toutes les formes d'agriculture qu'on peut retrouver en ville et autour des villes, mais dont la majorité des productions ou des services sont rendus à la ville. Donc il y a un lien avec la ville, et ben, c'est très présent par exemple dans l'éco-pâturage. Là, il y a vraiment un lien très important, ça remplace des activités qui seraient faites autrement dans la ville. Donc ça peut couvrir à la fois des activités de production, à la fois des services comme on voit avec l'éco-pâturage, mais aussi des fois de la transformation, de la distribution. Ça peut aller vraiment du champ à l'assiette, comme on dit, avec toutes les étapes qui peuvent y avoir. On voit des formes très différentes. Ici, sur le diaporama, on voit une serre en périphérie de ville. On voit un champ en plein milieu d'un quartier de logements sociaux. Un espace de formation le long des rails de chemin de fer. Et tout au-dessus, c'est à New York. C'est sur une toiture de plus de 1000 m². Ils font de la production. Donc, j'ai barré ici un animal, donc ça va peut-être choquer certains, mais la plupart de l'agriculture urbaine dans les villes occidentales se concentre sur des produits qui ont une haute valeur ajoutée et qui ne prennent pas trop de place. Donc en général, on ne retrouve pas le bovin, on ne retrouve pas les grandes cultures, donc les céréales, le fourrage, les champs de pommes de terre, de betteraves et autres. On retrouve des choses par contre très spécifiques qui ne supportent pas bien le transport, comme des légumes avec des variétés fragiles qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Aussi des choses qui prennent pas beaucoup de place et qui peuvent bénéficier des infrastructures de la ville, comme les productions de champignons ou d'insectes, donc là on reparle de l'animal, ou encore des poules. Alors l'agriculture urbaine, elle peut être chez les particuliers ou dans des milieux associatifs ou pour de l'autoproduction, mais elle peut aussi avoir une dimension commerciale, et c'est souvent le cas par exemple pour l'éco-pâturage, même s'il y a une finalité sociale dans certains projets. L'objectif est quand même de payer un salarié et donc de faire tourner l'économie locale. Et là, de nouveau, on peut avoir des formes très variées. Donc ici, tout en haut, vous avez un exemple à Zuid Park. Aux Pays-Bas, il y avait une très grosse crise pour remplir les bureaux des entreprises. Ils avaient des millions de mètres carrés, je ne sais plus le chiffre exact, désolé, mais beaucoup de mètres carrés de bureaux vraiment vides, et dans ce bâtiment en particulier. Donc l'agriculture n'a pas été la solution, mais a fait partie de la solution. C'est-à-dire que le propriétaire du bâtiment a décidé de mettre des bornes électriques pour les voitures, d'installer toute une série de choses, et y compris un potager sur le toit. Et c'est toutes ces choses ensemble donc, qui ont rendu le bâtiment un peu plus durable et intelligent, et qui a fait que son bâtiment a été de nouveau rempli. Et les légumes ici servent à nourrir le restaurant de l'entreprise et aussi à permettre aux employés de un peu toucher à la terre et donc de prendre l'air d'une autre façon que sortir devant le bureau et fumer sa clope. Donc le jour où on a visité, par exemple, on a mangé une soupe aux poireaux du toit. Au milieu, au-dessus, c'est un exemple beaucoup plus high-tech avec du vertical farming, comme on dit. Donc c'est des salades qui tournent et qui montent sans cesse pour aller chercher la lumière et pour cultiver sur vraiment très peu de place. Je ne veux pas rentrer dans le détail. À droite ici, on revient en France, à Paris, c'est les Jardins de Galice, si certains connaissent, où là ils expérimentent tout un tas de choses et en plus ils font de la production pour produire donc avec un vrai paysan, et à côté ils mettent des parcelles à disposition des gens pour cultiver eux-mêmes, donc pour l'autoconsommation. En bas à gauche, on est à New York, et là donc c'est l'exemple que je vous avais montré sur le toit. Et là, une des choses qui est particulière, c'est que le business model n'est pas tourné vraiment vers l'agriculture, même si ça couvre une surface importante et qu'à New York les gens ont les moyens de payer leurs légumes très cher parce qu'ils viennent du toit et que ça fait cool. Au final, leur business model repose très fort sur l'événementiel. On voit ici une table de mariage. En fait, ils organisent beaucoup d'événements, et moi-même qui ai visité l'endroit, ben, j'ai dû payer pour monter sur le toit. Donc ça aussi, il y a des liens, je pense, aussi avec l'éco-pâturage, où des fois, le business model peut être mixte entre vraiment le service du mouton et puis tout ce qui va autour. On voit avec ArcelorMittal, je suppose qu'il y a bien eu des choses liées aussi à l'image de l'entreprise, etc., qui ont permis de rendre l'activité pérenne, durable, pas seulement sur le durable au sens écologique, mais aussi au sens social et au sens économique. Au milieu en bas, on est sur la Loufa Farm à Québec. Donc ils ont décidé de couvrir tout un toit de serre pour produire des légumes. Et beaucoup de gens mettent ça en avant comme étant une production très importante de légumes en agriculture urbaine. Mais au final, le business model, de nouveau, c'est pas ça. c'est qu'en fait, le toit, il est couvert de cette serre pour récupérer l'énergie du bâtiment, produire des légumes, oui. Mais la plupart des légumes qui sont vendus sont en fait vendus grâce au bâtiment qui est en dessous, parce que c'est un centre logistique qui achète les productions de tous les paysans autour de la ville et un petit peu dans la ville aussi. Et donc, ça leur permet d'avoir une image et d'écouler toutes leurs marchandises avec des paniers bio qui sont bien plus garnis que s'ils vendaient que ce qu'ils produisent sur leur toit, parce qu'on ne peut pas toujours tout faire dans un seul environnement. Et enfin, c'est l'exemple d'AgroParisTech, qui sont un peu nos homologues parisiens, où ils font de la recherche, notamment sur les problèmes de pollution urbaine, etc., en ayant installé des bacs potagers sur le toit. Et d'ailleurs, certains de mes homologues ont aussi créé leur entreprise pour faire plus ou moins la même chose que ce que je fais, mais en France. La ville intelligente, maintenant, aussi appelée Smart Cities, elle est vue par beaucoup comme une ville ultra connectée où tout est high-tech, tout est digital, tout est smart. Donc, vous voyez là, les smart streets, les smart parkings, smart environnement, smart communities, smart transport, smart building, tout est smart. Même la petite plante, là, a une petite prise électrique. Donc, ça, c'est un peu la vision que certains ont de la smart cities, mais je pense que c'est une vision très caricaturale. À ce point caricatural que si vous avez vu le film Wall-E, ben, la Smart City, ça ressemble un petit peu à ça. Avant que la ville s'effondre, ben, c'était des gens qui se déplacent avec des sortes d'overboard et qui ont des tablettes devant les yeux et qui sont tous obèses. Ben, c'est un peu la caricature que les gens ont de la Smart City. Nous, on n'a pas du tout cette vision-là, et d'autres scientifiques qui travaillent sur les villes intelligentes partagent la même vision que nous. Alors, la ville durable, il y a certains qui ont cette vision-là. Ben là, de nouveau, c'est un peu une caricature. Donc, ici, c'est la dernière réalisation de Vincent Calbeau pour la ville de Bruxelles. Donc, évidemment, c'est une image 3D qui ne sera probablement jamais réalisée. Mais c'est quelque chose qui tend à faire réfléchir, qui donne à rêver. Donc, ça, c'est pas dénué d'intérêt. Mais au final, la ville intelligente, c'est quelque chose... La ville intelligente et durable, c'est quelque chose entre les deux. Donc, c'est une ville dans laquelle on peut avoir des espaces avec de la nature, pas toujours sur les toits, mais aussi des fois en pleine terre, et qui à la fois profite des technologies comme l'Internet, les objets connectés, etc. Il y a moyen d'en profiter pour les bénéfices, que ce soit pour les citoyens, pour le côté social ou pour l'environnement. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il n'y a pas que des inconvénients. Maintenant, on va retourner plus sur le sujet, l'animal en ville, un peu les problématiques, les solutions et les avantages. Et là, je vais vraiment passer par le prisme que moi j'ai, enfin, ma vision que j'ai, grâce au projet que j'accompagne ou au projet dans lequel je suis vraiment actif. D'abord, mon côté un peu scientifique, je vais redéfinir les choses. Donc, l'animal en ville, au final, c'est l'homme avant tout. On a avant tout un animal comme les autres, et on prend beaucoup de place en ville. La ville est faite pour nous. Ensuite, on a la faune sauvage, qu'on le veuille ou non. On a plein de choses, des oiseaux, des renards, des poissons, du gibier, des rats, des souris, des insectes. Enfin, il y a plein de choses dans la ville. Dans toutes les villes, c'est comme ça. Il y a des animaux. Donc c'est pas comment intégrer l'animal en ville qu'on aurait dû appeler la conférence, c'est comment mieux l'intégrer en ville, comment le réintégrer. Parce que on voit que dans le passé, ça a déjà été dit dans d'autres conférences ce matin, il y avait déjà l'animal en ville. Et si on regarde à l'échelle du monde, il y a l'animal en ville dans plein d'autres villes du monde qui sont moins occidentales que nous, qui ont moins profité du fait que le pétrole, le coût du pétrole est vraiment descendu et que du coup on pouvait se permettre d'importer les choses assez facilement, à faible coût, tant financier qu'environnemental, parce qu'à l'époque, le pétrole, au final, on ne dépensait pas beaucoup d'énergie pour récupérer beaucoup d'énergie fossile, et donc il y avait un intérêt qui paraissait logique, et à ce stade-ci, ça c'est même plus défendable. Donc voilà, l'animal en ville, il est là, qu'on le veuille ou non. Et on voit, quand vous voyez déjà là les quelques distinctions, que l'animal en ville, il va être plus ou moins bien perçu. Déjà même dans la faune sauvage, en général, la faune sauvage, on dit on n'y touche pas, il faut la préserver. Mais si on prend les oiseaux, un rapace ne va pas avoir la même valeur pour les citoyens ou la municipalité qu'un pigeon. Idem pour les insectes. On écrase un papillon, on se fait crier dessus, on écrase une mouche, il y a moins de personnes qui crient. Donc on voit que déjà là, même la faune sauvage a un peu du mal à s'intégrer en ville, en tout cas pour une partie de ces animaux. L'animal de compagnie, c'est un des animaux qui est très présent en ville. Il y a le chien, chat, poisson, les choses les plus classiques, mais on a aussi les NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie, c'est-à-dire les serpents, les reptiles, enfin toute une sorte de nouveaux animaux exotiques qui sont aussi en ville, avec des inconvénients aussi pour certains citoyens. Et ensuite, on a des choses qui vont se rapprocher de plus en plus de l'élevage, ou en tout cas des animaux qui rendent des services, comme pour l'éco-pâturage, avec des chevaux qui vont servir pour le loisir ou pour le sport, comme ici, des animaux de cirque, là c'est plus pour l'événementiel, ou pour le zoo, pour la pédagogie, ou aussi pour conserver certaines espèces qui sont en voie de disparition. On a le chien d'aveugle, où là il y a vraiment une utilité. Donc ça, c'est que quelques exemples. Hein. Le cheval pour l'attraction animale ou pour les services de police, c'est des choses qui sont vraiment très présentes déjà dans nos villes. Et en fonction des animaux, on va aussi, en fonction des animaux et de leurs fonctions, on va aussi voir qu'il y a des choses dans les problématiques et dans les solutions qui sont vraiment très contrastées par la perception que les gens ont de ces animaux, de leur utilité et de l'amour qu'on va dire qu'ils vont porter à ces animaux. De nouveau, comme pour les animaux sauvages, je vous laisse imaginer toutes les animosités justement qu'il peut y avoir entre l'homme et ces différents types d'animaux. Ce qui nous intéresse ici, je pense, c'est plus l'animal d'élevage. Donc ça va de la poule au cochon, en passant par les ovins, caprins qu'on peut utiliser pour l'éco-pâturage, mais aussi les bovins, les poissons ou les insectes pour l'alimentation humaine. Donc là, si on veut intégrer ces animaux-là dans des buts plutôt liés à la matière agricole, on va se retrouver avec plein d'obstacles qui sont souvent liés. Donc les obstacles qu'on rencontre avec l'éco-pâturage, au final, c'est les mêmes qu'on a avec tous les animaux que vous voyez là. Dans les insectes, un des insectes qui est pour le moment très à la mode qu'on met dans les villes, et aussi chez Arcelor, je viens d'entendre, c'est les ruches, donc les abeilles domestiques. Eh ben, elle aussi, il y a des questions par rapport à la pollution. Elle aussi, il y a des questions par rapport à la sécurité. Les enfants risquent de se faire piquer, etc. Donc, c'est une problématique qui est vraiment générale à l'animal en ville. Après, on va voir, les bénéfices sont quand même intéressants. Donc, on va se concentrer ici. Donc, quelques exemples que je connais très bien. À Bruxelles, on a un exemple d'un entrepreneur qui a lancé une production d'insectes pour l'alimentation humaine. Il s'appelle Little Food, et donc il produit des petits grillons, et son objectif, c'est de faire passer la barrière psychologique aux gens de cette chose un peu rebutante qui pourrait être l'insecte, en ne transformant pas le produit, mais en le vendant entier. Donc le but, c'est de vendre quelque chose d'un peu fun, dire voilà, moi j'ai mangé un insecte comme dans Koh-Lanta. Et donc après, c'est de valoriser la production d'insectes en ville pour tous les bienfaits environnementaux que ça a par rapport à un bovin, par exemple, où on sait que ça transforme beaucoup moins bien l'énergie qu'ils ingèrent en mangeant des végétaux. Ils ont vraiment un meilleur taux de conversion. C'est pour ce genre de raisons environnementales, mais pas seulement, qu'ils essaient de développer ça et de faire changer les modes de conscience. Au milieu, on a le cas que je connais le mieux et qui se rapproche le plus de l'éco-pâturage. C'est le bercail, c'est le projet de bergerie du champ des cailles. Donc le champ des cailles, c'est un projet d'agriculture urbaine au milieu de tout un tas de logements sociaux dans une ancienne friche. Et eux, ils produisent du fromage pour le moment. Donc ils ont intégré l'animal en ville, ici le mouton, pour produire du fromage. Mais ils ont des espaces assez limités et ils veulent faire de l'éco-pâturage pour produire du fromage. Donc cette fois-ci, c'est pas faire de l'éco-pâturage pour faire l'entretien des espaces verts, mais c'est vraiment parce qu'ils aimeraient agrandir leurs troupeaux et puis profiter d'espaces urbains qui au final sont utilisés par des tondeuses et qui n'ont pas de valorisation de ces espaces en plus que évidemment l'attrait de pouvoir se reposer dans une pelouse. Donc ils sont en train de développer ça. En haut à droite, je vous présente mon habitation. Donc on a créé une association et on produit des légumes sur le toit, on fait du compost et on a aussi des ruches. Et donc les problématiques que je vous expliquais pour les ruches, eh ben, on les a eues nous aussi. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment les habitants se posent des questions par rapport à la sécurité liée à ces animaux. Et ça demande beaucoup d'efforts de pédagogie. Et je pense que pour l'éco-pâturage, ben, c'est souvent aussi une des barrières, c'est qu'il faut expliquer aux gens ce que c'est, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, comment on peut surmonter ces inconvénients. Ben, nous, ça a été très simple pour montrer que ce n'était pas dangereux. Ben, on a profité d'un accident pour montrer que ce n'était pas dangereux. Donc un jour, on a eu un essaim d'abeilles qui est parti de la ruche et qui s'est planté en plein milieu du jardin où il y avait tous les enfants. Et j'étais pas là, j'étais en vacances, donc c'était super. L'apiculteur est venu en short en 20 minutes et a pas du tout mis de protection, a récupéré l'essaim et est reparti. Et puis il n'y a pas eu de souci. Alors que pendant ces 20 minutes, les enfants avaient déjà commencé à jouer avec une balle de foot dans l'essaim. Et donc, ils ont vraiment pris conscience. Donc ça fait peur, oui, il y a plein, des milliers d'abeilles qui se regroupent. Mais au final, c'est un comportement naturel. Et à partir du moment où elle se coince pas dans tes cheveux ou que tu viens pas vraiment l'embêter, voire même là ils l'ont embêté, mais ils ont eu de la chance, ils se sont pas fait piquer. Il y a vraiment pas de souci. Je pense que pour l'éco-pâturage, il y a beaucoup de liens à faire. C'est en étant en contact avec les bêtes que les gens se rendent compte qu'au final, c'est pas un danger pour les enfants qui sont dans la plaine de jeu d'à côté, par exemple, qu'une simple barrière peut faire beaucoup de choses. Et des fois, il faut même pas de barrière. Donc ça, c'est un des exemples. J'ai oublié de dire pour l'élevage d'insectes qu'une des grosses barrières, c'était liée aux autorités sanitaires. Alors, je ne sais pas s'il y a des problématiques similaires pour l'éco-pâturage. Certainement, quand on produit du fromage. En tout cas, en Belgique, on a beaucoup de problèmes avec les autorités sanitaires et le fromage artisanal. Mais eux, ils ont commencé leur business alors qu'il n'y avait pas de législation sur la production et des insectes pour l'alimentation humaine. Donc, on pouvait acheter des insectes qui venaient de l'étranger et les manger. Mais par contre, on ne pouvait pas en produire. Parce qu'il n'y avait rien qui était défini, comment on les abat, comment ça se passe, tout ça, il n'y avait rien de défini. Donc c'est les premiers en Europe à avoir fait passer des lois en Belgique pour que ça se passe, et ils sont en train de travailler avec des partenaires français et européens pour que la législation passe dans toute l'Europe. En bas à gauche, on a des poules. Alors à partir du moment où on a 2-3 poules chez soi à la maison, parce qu'on a un grand jardin, ben les autorités ne s'inquiètent pas trop, il n'y a pas de souci. Mais ici, l'exemple que je connais, j'ai pas de vraie photo, c'est une photo d'illustration parce qu'il est en construction. C'est un poulailler de 500 mètres carrés en plein centre-ville. Et donc là, évidemment, il y a plein de tracas administratifs. Et pour ça, une des solutions, et ce qui fait que ce poulailler va se créer, c'est que la ville met en place une stratégie alimentation durable. Et ces projets-là peuvent s'appuyer sur la stratégie des villes. Souvent, on a des problèmes avec certains fonctionnaires de sa ville. Qui soit sont pas au courant, soit sont de mauvaise volonté ou veulent pas comprendre. Mais il y a aussi plein de personnes dans toutes les villes qui sont motivées pour que la ville soit plus durable et plus intelligente demain. Et c'est ces personnes-là qu'il faut aller voir. Ils sont en train de mettre en place des stratégies. Moi, je travaille actuellement sur 4 stratégies différentes, dont 2 en France, une à Paris, une à Roubaix. Et donc, les choses sont en train de se développer. Et il faut, je pense, accompagner cette dynamique, que ce soit pour le maraîchage ou pour l'éco-pâturage. C'est vraiment le même combat. Au milieu, on a un simple manège. Donc ça, c'est un exemple d'animal en ville qui n'a pas de problème. Tout le monde est content qu'un petit manège vienne s'installer à côté de chez soi, parce qu'on peut, on peut emmener ses enfants, faire du cheval, etc. Vous connaissez bien l'exemple. C'est même plus développé en France qu'en Belgique. En Belgique, c'est plus difficile de trouver un manège. Enfin, en bas à droite, c'est un projet d'aquaponie. Donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus en termes de recherche scientifique pour que ça puisse devenir quelque chose de plus durable et de plus durable autant pour l'environnement que pour le côté économique. Et ici, c'est l'exemple de BIG pour Building Integrated Greenhouse. Donc, c'est un bureau d'architecture à la base. Et ils ont décidé de lancer des gros sites d'aquaponie, donc production de poissons. Donc, les poissons, c'est l'aquaculture. Et production de plantes en hydroponie, donc la partie plutôt horticole. Donc c'est la contraction de aquaculture et hydroponie, ça fait aquaponie. Et eux, ils ont les permis d'urbanisme pour construire leur machin de 4000 m² sur le toit d'un ancien abattoir depuis bientôt un an, je pense. Et il n'y a toujours rien qui est construit. Donc on voit que quand on essaye d'intégrer l'animal en ville ou plus généralement une innovation qui, au final aussi, comme pour l'éco-pâturage, c'est pas si innovant que ça. L'aquaponie, en fait, ça existe depuis très longtemps. Mais il y a quand même beaucoup de barrières à passer. Je vais conclure sur les bénéfices généraux de l'agriculture urbaine. Donc, on en a listé 10, 11 pour l'économie et l'écologie chaque fois, et une quinzaine pour le social. J'ai fait un peu l'exercice pour l'éco-pâturage. et essayer de voir les bénéfices généraux de l'agriculture urbaine, où on se situe du point de vue de l'éco-pâturage. On voit qu'on a beaucoup de bénéfices intéressants pour la diminution du CO2, cette fois-ci pas tellement lié au transport, sauf quand on fait du fromage, mais surtout lié aux engins qui ne consomment plus d'essence. On a un bon recyclage de la matière organique parce qu'on produit du fumier, etc. Un impact intéressant pour la biodiversité parce que ça permet de valoriser des espèces intéressantes, que ce soit tant pour l'élevage que pour le bien-être. Donc les espèces qui sont plus, on l'a dit dans d'autres conférences, ben celle-là on l'a prise parce qu'elle est jolie. Ben pourquoi pas, ça fait aussi partie de la ville intelligente et durable. Du point de vue économie, c'est plus la stimulation de l'économie locale, ça permet de créer plein de business. Des fois c'est des paysagistes, des fois c'est plutôt des bergers qui s'intègrent à la ville, donc c'est des business assez différents, souvent ils se battent un petit peu, mais ça permet quand même de créer de l'emploi, ça peut être intéressant de nourrir la ville, ça je passe. Mais alors aussi, surtout, on voit qu'il y a beaucoup d'avantages du point de vue social, c'est-à-dire que les gens se reconnectent à la nature grâce à ça, parce qu'ils sont en contact avec l'animal, ça permet d'avoir une activité physique différente que d'être sur son tracteur. C'est un rôle d'éducation, de formation et aussi d'esthétique parce que c'est plus joli de voir des moutons paître devant chez soi que des tondeuses à gazon faire des allers-retours. Voilà, j'ai été un peu trop long, je m'en excuse, mais je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions, je serai là après la conférence et encore plus tard.
Merci beaucoup, Alexandre Lefebvre. Effectivement, on peut peut-être prendre déjà une ou deux questions là. Est-ce que vous avez une question sur cette première partie avant d'attaquer le lien justement entre l'homme et l'animal et surtout avec le prisme du travail? Oui, une question.
Bonjour, Christian Issa, je suis directeur environnement à Paris-Vallée-de-la-Marne, en région parisienne. Donc on connaît très bien toutes ces questions là d'agriculture urbaine, on travaille beaucoup là-dessus. Moi, ma question sur Enfin, ce qu'on voit d'ailleurs, on voit la photo là, c'est très high-tech cette affaire-là. Donc je me dis, mais une question toute simple, hein. Quel est le prix de la salade là? Parce que voilà.
Le prix de la salade, c'est souvent pris en référence. Donc évidemment, la salade, si on le fait dans des systèmes high-tech, ça va coûter trois fois le prix, voire des fois plus. Après, le problème aussi, c'est. Le problème du prix, c'est une bonne question, parce qu'on se rend compte aussi que. Il y a deux poids, deux mesures. Il y a des salades qui poussent sans voir la lumière du soleil, avec des LED dans des systèmes qui tournent, avec au final énormément d'empreintes carbone parce que ça demande beaucoup d'investissement en matériaux, en énergie. Donc ça, c'est le côté plus négatif. Après, par rapport au prix, quand on compare une salade qui a poussé sur un toit dans un projet un peu innovant, donc sans être spécialement high-tech, hein, elle va déjà coûter plus cher. Et ce qu'il y a, c'est que la salade qu'on achète au supermarché, on ne la paye pas son prix réel parce qu'elle est largement subventionnée, parce qu'on ne paye pas tous les coûts environnementaux qui vont derrière. Souvent, les projets d'agriculture urbaine, moi, j'en connais vraiment pas beaucoup, où on peut vraiment les critiquer du point de vue de l'impact écologique. Il y a des collègues à moi en Belgique qui sont dans une polémique, par exemple, sur les abeilles et qui vont aller dire que les abeilles domestiques sont en concurrence avec les abeilles sauvages. C'est vrai. Avec les insectes en général, sauf que le miel, les habitants de la ville, ils le mangent de toute façon. Donc qu'on produise le miel dans la ville, oui, il va y avoir une concurrence, mais il y a une concurrence avec votre mouton, avec d'autres animaux qui sont dans la ville et des insectes, etc. C'est une concurrence qui n'est pas un problème. À partir du moment où on a beaucoup trop de ruches, ça devient un problème. Mais si on arrive à rester dans quelque chose de raisonnable, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et les impacts qu'on peut avoir en ville, en termes de pollution, ben, on les aura loin de la ville si c'est fait en Chine ou à la campagne. Et en plus, on aura le trajet en termes d'impact. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à l'impact un peu écologique et l'impact financier. Ben, c'est que pour le moment, les ménages dépensent de moins en moins d'argent par rapport à leur salaire pour s'alimenter. Et que c'est pas une situation tenable, c'est une situation qui est née du fait que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le pétrole coûte tellement peu cher qu'on peut se permettre de produire des aliments à bas prix. Et puis quand on a vu que c'était plus possible parce que le pétrole coûtait plus cher, on a commencé à subventionner de plus en plus nos agriculteurs. Et maintenant on voit que tous les ans, si pas tous les mois, les agriculteurs font des manifestations parce que même avec ces subsides, c'est ce système un peu artificiel qui permet de faire survivre l'agriculture, ils s'en sortent toujours pas.
Voilà. Une question encore? Ou on passe directement à la suivante? Allez, on passe directement à la suivante avec Madame Jocelyne Porcher. Merci encore, hein, Alexandre Lefebvre. On peut l'applaudir.